Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Parole d'Histoire, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et ravi de vous retrouver André Loez. Ravi. Je suis toujours très heureux de vous retrouver pour vous revoir pour enregistrer un épisode. Mais là, la préparation de l'émission aura été particulièrement douloureuse. Épisode qui est donc à la fois votre pet project, votre projet passion depuis plusieurs semaines que vous m'en parlez, et en même temps une quête impossible qui est donc de réhabiliter le film Alexandre d'Oliver Stone, sorti en 2004 et qui a donné, on peut le dire, un bide monumental et bien mérité, ajouterais-je. Malgré son casting 5 étoiles, on peut citer notamment Colin Farrell en Alexandre, Angelina Jolie et Val Kilmer pour ses parents Olympias et Philippe de Macédoine. Et parmi les diadoques, donc les compagnons d'Alexandre, il y a notamment Jared Leto en Héphaïstion, Jonathan Rhys-Meyers en Cassandre, et aussi Anthony Hopkins en Ptolémée Vieux, qui est aussi le narrateur insupportable de ce film. Et je vais enfin mentionner une jeune Rosario Dawson en Roxane, l'épouse asiatique d'Alexandre. Donc, une réhabilitation de ce film qui est sans doute une noble quête de votre part, en tout cas une entreprise ardue certainement, et qui va donc passer aujourd'hui une première épreuve qui sera d'essayer de me convaincre que j'ai pas une nouvelle fois perdu 2h30 de ma vie à revoir encore ce pinceau, André.
Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation tout à fait objective. Alors, pour parler de ce film magnifique, même si un peu imparfait, injustement sous-estimé, jusque dans ce studio avec beaucoup de mauvaise foi, avec sans doute ce qui est la plus belle bataille historique jamais filmée, un film qui écrase littéralement le Napoléon de Ridley Scott dont on avait eu l'occasion de parler et qui était déplorable en tout point, là il y a beaucoup de choses à sauver. Donc pour m'accompagner dans cette tâche, nous avons le plaisir de recevoir Jérémy Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire ancienne à l'université Paris-Nanterre, vous êtes spécialiste notamment de la guerre à l'époque hellénistique et aussi particulièrement de la guerre à cheval, ce qui est d'ailleurs une caractéristique forte de l'épopée d'Alexandre. Alors première question toute simple, l'antiquisant que vous êtes, est-ce que vous avez de l'intérêt voire de l'affection pour ce film?
Oui, c'est un. Alors, je dois reconnaître, c'est un film que j'apprécie et c'est un film que j'ai découvert
les
à sa sortie
deux contre
en
un.
Que j'ai découvert à sa sortie en salle.
On n'avait pas de surprise. Hein. Enfin, je savais bien que j'allais être seul, mais j'ai derrière moi des millions et des millions de spectateurs.
C'est vrai. La tâche va être
de non spectateurs plutôt.
De spectateurs qui ont détesté aussi.
Enfin, c'est un film que j'ai découvert à peu près à l'âge de 20 ans quand il est sorti en salle, que je n'ai pas du tout compris à l'époque parce que je pense que j'avais pas les clés de lecture ni du film ni les éléments de contexte. Et plus je le vois et plus je l'apprécie, et encore là il y a quelques jours quand je l'ai revu pour préparer l'émission, à la fin je me suis dit quel bon film quand même.
Bon, la pente va être rude, mais on va en discuter parce qu'il y a des choses à discuter dans ce film. The king isn't born, he's made. What would you do if you ever reached the end of the world? Never will there be an Alexander like you, Alexander the Great. Alors, Alexandre, c'est un blockbuster, en tout cas, ça zoule un blockbuster, et c'est un blockbuster, il faut bien le dire, raté dans cette ambition-là, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé autour de la sortie du film?
C'est intéressant, c'est un film qui est très surconstruit. Alors, c'est pas la première fois que quelqu'un essaye de faire un Alexandre, je crois qu'il y en avait un dans les années 50 qui était sorti, et puis ensuite, il y a eu beaucoup de projets, il y a eu un certain nombre de projets, et d'ailleurs, je crois que c'est le conseiller culturel, enfin, le conseiller historique du film, qui raconte bien, son nom m'échappe à l'instant.
Robin Lane Fox.
Qui dit bien que ça faisait quelques années qu'il y avait déjà un certain nombre de gens qui venaient le voir pour ce genre de film, soit une série, soit un film, notamment Spielberg a tourné un peu autour de l'histoire.
Baz Luhrmann aussi, qui avait un projet concurrent.
Voilà. Alors, j'aurais été intéressé de voir ce qu'un film de Baz Luhrmann donne sur Alexandre. Peut-être que les cadrages auraient été encore plus vertigineux que pour Oliver Stone. Mais bon, en tout cas, c'est un film qui sort en 2004. qui est fait par Oliver Stone. Et dans une certaine mesure, on peut se poser la question de le personnage d'Oliver Stone, ce qu'on sait aussi de son parcours politique, ce qu'on sait de ses films passés sur la guerre, notamment Platoon. Ah bon, ça pose des questions sur... Parce que, disons-le, une des questions qui s'est posée quand il est sorti, notamment c'était en 2004, c'était est-ce que ce ne serait pas un film George W. Bush ? Puisqu'il est quand même question, de long en large, d'apporter de la démocratie à l'Orient un peu barbare, quoi. Ce qui, venant d'Oliver Stone, est un peu douteux, et il s'en défend tout à fait, mais en même temps, le fait est que c'est plus ou moins, le fond. C'est un film qui fait un flop, disons-le, et qui fait tellement un flop... Et manifestement, c'est un projet que Oliver Stone portait depuis plusieurs décennies, ça fait très longtemps qu'il avait envie de faire ça, que instantanément, il le remonte, après le flop au cinéma pour la sortie DVD. Il coupe 8 minutes, mais en fait, c'est beaucoup plus remanié que ça, c'est-à-dire il en enlève, il en rajoute, etc., mais ça fait 8 minutes de moins à la sortie. Et puis ensuite, pris d'une sorte de folie plusieurs années plus tard, il décidera de faire une director's cut avec absolument tout ce qu'il a filmé, et puis ensuite de faire une deuxième director's cut, The Ultimate Cut, où quand même il finit par couper quelque chose, mais on est quand même... sur des formats au-delà de 3 heures qui sont complètement délirants pour un film aussi pénible.
On a 4 versions au total, ce qui est quand même assez rare, et d'ailleurs on s'y perd un peu, y compris dans la préparation, on ne savait plus qui avait vu quoi, mais bon, on a vu l'essentiel ensemble. C'est un film qui n'a eu aucune nomination aux Oscars, en revanche qui a remporté plusieurs Razzies, c'est-à-dire l'inverse des Oscars, pire acteur pour Colin Farrell, pire actrice pour Angelina Jolie, pire second rôle pour Val Kilmer, bon, tout ça est très injuste. On va essayer de comprendre malgré tout ce qu'il y a dans ce film, et peut-être on pourrait partir, Jérémy, avec vous, d'un paradoxe qui est que c'est un film... Il y a plein de choses à critiquer, mais par rapport, on en parlait récemment, au Napoléon de Ridley Scott, c'est un film qui se veut d'une grande fidélité aux sources antiques. En tout cas, il y a énormément d'éléments qui viennent des sources antiques, et on a l'impression parfois de voir plus tard qu'à l'écran, avec plein d'anecdotes qui sont filmées quasiment telles quelles, lorsque, au cours d'un banquet, le père d'Alexandre, Philippe, l'insulte, et puis se précipite vers lui, il s'effondre dans la salle de banquet avinée, et Alexandre lui dit à l'Assemblée, voilà l'homme qui voulait vous mener en Asie, il ne peut même pas passer d'un divan à l'autre. Et ça, c'est mot pour mot ce qu'on trouve chez Plutarque. Donc, c'est un film qui se veut bâti sur vraiment des briques de construction qui sont des textes antiques.
Oui, absolument. Alors ça c'est vrai que c'est un des mérites du film, et c'est sans doute ce qui a une résonance très positive chez moi. C'est que le réalisateur, Oliver Stone, s'est quand même bien documenté. Il a lu notamment le livre de Robin Lane Fox, dont on pourra reparler, qui date certes des années 70, mais qui est quand même un bon livre sur Alexandre, un livre de référence. Et il a voulu mettre en image, avec une certaine fidélité aux sources, un certain nombre de scènes célèbres. Alors vous parliez effectivement de la scène de la dispute entre le père et le fils, qui reprend effectivement les gestes, certaines paroles qu'on retrouve chez Plutarque. Mais on pourrait citer d'autres scènes plus ou moins remaniées, par exemple la rencontre avec le cheval bucéphale aussi, qui colle assez bien à ce qu'on lit chez Plutarque, et qui est une scène qui est racontée par les compagnons d'Alexandre, notamment par son chambellan après la mort d'Alexandre.
Voilà, on rappelle que c'est un topos d'ailleurs des films avec des choux en général, c'est-à-dire un cheval indomptable, mais seul le protagoniste, parce qu'il a compris, parce qu'il sait être en lien avec les émotions du cheval, et il a compris que le cheval a peur de son ombre, a peur du soleil, il arrive à le monter, il fait la fierté de son père, enfin voilà, c'est quelque chose, Alexandre hoche la tête, qui relève du cliché.
Mais l'ai vu 20 fois dans un cliché, film, c'est toujours aussi inintéressant, et là c'est très mal filmé. Enfin, par ailleurs, on ne ressent absolument rien dans cette scène. Il n'y a rien quoi. Enfin, c'est-à-dire, bon, on en reparlera, mais il y a un truc, ils ont tous tellement voulu faire leur jeu d'acteur. Olympias, donc Angelina Jolie fait son truc,
Val Kilmer,
Philippe fait son, fait, et du coup c'est pas une scène, les acteurs ne jouent pas ensemble, ils font chacun des morceaux de bravoure. Pardon, désolé, c'est pas la dernière fois que je fais ce genre d'incident.
Il y a d'autres scènes comme ça qui sont assez fidèles. La dispute avec Kleitos, plutôt vers la fin du film aussi, qui est assez fidèle, qui reprend là plutôt la version qu'on trouve chez Quint Kurse, avec les mêmes...
Donc Kleitos, rappelons, c'est un des diadoques, un des compagnons d'Alexandre, qui a par ailleurs cette particularité d'avoir été le favori plus ou moins de Philippe, donc d'être d'une autre génération, et il a été tué lors d'un banquet par Alexandre qui avait trop bu.
Absolument. C'était, si ma mémoire est bonne, le frère de la nourrice d'Alexandre. Et il était un peu plus âgé, donc il représente plutôt la génération d'avant. C'était un officier de cavalerie qui avait de grandes responsabilités dans l'armée. Et
il lui avait sauvé la vie.
Il lui a sauvé la vie, alors non pas à Gaugamel comme on le voit dans le film, mais à la bataille du Granic, qui est la première bataille qu'Alexandre livre aux satrapes perses en arrivant en Asie mineure. Ils étaient très, très proches, ils avaient quasiment une relation relation un peu, enfin qui est peut-être mise en scène dans les sources, mais une relation un peu père-fils, une sorte de père de substitution. Donc cette dispute, c'est un moment important hein, dans la rupture entre Alexandre et ses généraux, et elle est bien mise en scène, je trouve, en reprenant les accusations qu'on voit apparaître notamment chez Quint de Curse, les critiques par rapport aux prétentions de divinisation d'Alexandre, enfin on pourra en reparler, hein, qui sont pas tout à fait historiques, mais le fait de renier l'héritage de Philippe, le fait de pactiser avec les barbares, etc. Tout ça, on en reparlera. Mais c'est une scène qui je trouve, est plutôt bien faite, même si elle est déplacée en Inde, alors qu'en réalité, elle a eu lieu en Bactriane. Hein. Le cadre est un peu différent, mais ça, à la limite, ça n'a d'importance que pour les historiens.
Bactriane, donc rappelons, c'est tout le dernier tiers du film, mais c'est des régions qui correspondent à l'Afghanistan, l'Iran actuel. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est le nord de l'Afghanistan et le sud de l'Ouzbékistan actuel.
Alors cette fidélité relative, en tout cas cette volonté de coller à certains textes antiques, elle vient sans doute aussi de ce conseiller historique, Robin Lynn Fox, qui est donc un universitaire, qui a passé quasiment toute sa carrière à Oxford. Est-ce qu'on peut dire un mot de son rôle? Et en plus, c'est un peu un cas d'école de ce que peut faire un conseiller historique dans un film, parce que il a été vraiment partie prenante du projet. C'est pas simplement quelqu'un à qui on a envoyé 3 emails et qui a répondu de loin. Là, il s'est investi personnellement, on va dire.
Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs il a écrit un livre après Making of Alexander, où il raconte son expérience en tant que conseiller historique. Donc c'est pas mal, parce qu'on peut entrer comme ça à ses côtés, dans les coulisses du film. Alors oui, effectivement, déjà il a été démarché par l'équipe de réalisation. Il a assez rapidement accepté, mais d'après ce qu'il raconte, dès son premier entretien avec Oliver Stone lui a tout de suite dit: je suis pas là pour faire un documentaire, donc il va y avoir des je vais être obligé, pour des raisons cinématographique, économique aussi, de compresser l'histoire, parfois de la remanier, voilà. Et je crois que c'est à cette occasion qu'il lui a dit Alexandre a tué son historien, Callisthène, le neveu d'Aristote, j'espère que vous ne me tuerez pas. Et donc Robin Lynn Fox a pu sans doute éclairer le réalisateur, mais Oliver Stone n'est pas dépendant en fait de la vision et des analyses de Robin Lynn Fox. Il a développé largement sa propre vision du personnage et de l'histoire, et il a évidemment pris énormément de liberté.
Alors, Robin Lynn Fox, il a tué Callisthène parce qu'il a probablement trompé dans un des complots qui était la Conjuration des Pages, qui visait à empoisonner Alexandre.
Donc, ah oui, alors dans le film, la Conjuration des Pages est mélangée d'ailleurs avec la Conjuration de Philotas. Hein, on fait des deux conjurations, on n'en fait qu'une. Ce qui peut, par exemple, ça c'est une des libertés qu'on peut tout à fait comprendre pour un réalisateur, hein, on peut pas raconter tous les épisodes, et effectivement Callisthène a été associé à la Conjuration des Pages, mais la vérité derrière cette affaire, c'est sans doute qu'il rechignait depuis quelques temps déjà à suivre les rites de, enfin les pratiques, à accepter la mise en place des pratiques de pouvoir de type perse à la cour d'Alexandre.
Et ça, on peut peut-être s'arrêter dessus, parce que pour le coup, ça, par exemple, c'est quelque chose, il faut avoir quand même pas mal de background, il faut quand même avoir une certaine culture historique pour comprendre pourquoi ça n'est pas mal dans le film. C'est quelques allusions, en tout cas dans la version sortie au cinéma, c'est vraiment quelques allusions à la proskynèse, c'est-à-dire le fait que chez les orientaux, chez les asiatiques, il y a cette prosternation envers le souverain, donc Darius puis Alexandre qui prend la suite, qui choque beaucoup les Grecs et les Macédoniens. Et on voit que c'est un enjeu de pouvoir, que c'est un enjeu de conflit entre notamment la vieille garde, l'ancienne génération des Diadoques et Alexandre, que Alexandre le fait parce qu'il veut s'adapter aux coutumes locales dans une certaine mesure. Et ça, enfin, dans le film, on ne peut pas le comprendre si on ne voit que le film, parce qu'on voit juste des gens qui gueulent sur Alexandre parce que y a des gens qui sont prosternés devant lui. Il y a aucun moyen de comprendre si on n'a pas.
C'est ce qui fait que c'est pas un film pédagogique, c'est un film qui fait travailler le spectateur et son esprit et sa réflexion, sa curiosité pour aller plus loin.
Et donc on se coupe de tous les gens qui n'ont pas passé la grecque d'histoire, mais c'est super. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, on peut faire. Moi, je veux bien faire des films pour ces gens-là, mais il faut pas trop s'étonner que ça marche pas très bien au cinéma après.
Oui, bah alors en fait là, vous touchez du doigt un problème fondamental. C'est l'absence en fait de l'Orient, de l'Asie, de ses populations, de ses cultures, de ses traditions politiques, des pratiques de pouvoir achéménides qui sont totalement absentes du film. Et c'est ce qui fait aussi qu'on comprend pas un certain nombre d'évolutions historiques au sein de la cour macédonienne ou chez Alexandre. C'est que c'est une histoire en fait qui est à la rencontre normalement de deux mondes, le monde de la Grèce et de la Macédoine d'un côté et le monde de l'Empire achéménide de l'autre. Et le problème, c'est que dans ce film, on ne voit qu'un seul des deux mondes. Alors peut-être parce que Stone était pétri d'admiration pour Alexandre, pour son œuvre politique, mais il ne s'est pas du tout renseigné sur l'autre versant de l'histoire. Et ça, c'est un problème c'est un vrai problème et on peut lui faire le reproche parce que lorsqu'il fait son film au début des années 2000, ça fait déjà bien 15 ans que l'historiographie de l'Empire achéménide s'est développée, il y a des livres dessus. Pierre Briand, son Que sais-je sur Alexandre, où il pose déjà un certain nombre de jalons, il date des années 70.
Donc, l'histoire de l'Empire perse de Pierre Briand, c'est 1996.
Oui, voilà. Et avant, il avait fait un Que sais-je sur Alexandre dans lequel il posait déjà les bases de ce qu'il a appelé ensuite la transition. C'est cette période en fait où les deux mondes se rencontrent, interagissent et puis progressivement on passe de l'époque classique à l'époque hellénistique, mais par un phénomène de rencontre et de transfert, c'est-à-dire que Alexandre,
vous avez bien évité de dire métissage. Parce que...
Alexandre, quand il, en fait, une bonne partie de son travail militaire et politique, c'est de reconstituer à son avantage l'Empire achéménide. Et il s'inspire très largement de l'organisation administrative, des pratiques de pouvoir achéménide. Et tout ça, on le voit pas parce que
on le voit à peine. Disons qu'on voit qu'il y a un satrape qui intègre l'entourage royal.
C'est très discret aussi. Hein, voilà, c'est Masaios.
Certains des compagnons macédoniens d'Alexandre comprennent pas pourquoi Masaios a cette place. C'est les vaincus, ils devraient rester à leur place de vaincus. Non, j'en ai besoin. Enfin, il y a quand même quelques éléments qui permettent de le comprendre, mais effectivement, c'est pas explicite. Et vous dites que ce monde de l'Orient est pas présent. On pourrait dire, il est pas présent. Il n'est pas pris au sérieux, mais il est présent sous une forme très kitsch. Et là, on peut peut-être évoquer cette scène absolument incroyable, risible, de l'arrivée, de l'entrée dans Babylone, qui reprend absolument tous les clichés orientalistes les plus éhontés, où on a Alexandre qui croise le regard d'un lion en cage, on a des cracheurs de feu, des gens sur des échasses, des pétales de fleurs qui jonchent le sol. Enfin, on est vraiment dans quelque chose dans le kitsch absolu.
Oui, alors en fait, c'est le problème, c'est que l'Empire achéménide est réduit à Babylone. D'ailleurs, dès la première scène, on nous dit Babylone, capitale de la Perse. Bon, alors déjà, il y a un problème géographique. Et par la suite, d'ailleurs, les vraies capitales de la Perse, hein, Persépolis, Passargane, ne seront jamais montrées.
Et n'est jamais montré l'incendie de Persépolis, qui est un acte majeur du règne d'Alexandre, et qui montre que cette fusion Occident-Orient, elle ne s'est pas passée si bien tout le temps.
Absolument. Et donc, on réduit l'Asie à Babylone. Et alors Babylone, d'un point de vue esthétique, eh bien, je veux dire, les décorateurs se sont inspirés de la porte d'Ishtar au Pergamon Museum.
Ils ont eu le bon goût de ne pas faire du noir et blanc, comme la plupart des gens qui font des films sur le Moyen-Âge. Ils ont compris qu'il y avait de la couleur aussi avant le 19e siècle. Donc au moins, c'est un travers dans lequel ils ne sont pas tombés.
En revanche, ce qu'on ne comprend pas, et c'est qu'on a l'impression au premier degré qu'Alexandre est accueilli comme un libérateur. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque son entrée dans Babylone a été négociée à l'avance. Les Babyloniens ont accepté d'ouvrir leurs portes en échange de garanties selon lesquelles la ville ne serait pas pillée, on n'entrerait pas dans les maisons pour s'emparer des biens des gens. Et au prix de ces quelques garanties, eh bien, effectivement, il a été accueilli de manière tout à fait pacifique à Babylone. Mais comme en fait le nouveau roi, voilà, parce que de toute manière, les Babyloniens étaient déjà sous la domination perse, donc en fait, ils changeaient simplement de domination. Et voilà, pour eux, ça ne changeait pas grand-chose du moment qu'un certain nombre de garanties leur étaient accordées en termes de sécurité.
Mais c'est là que on peut, enfin, c'est problématique comme vision, mais c'est aussi très dépendant des sources grecques. C'est que effectivement, on voit, c'est totalement un orientalisme, mais on voit cet Orient, ces Perses comme une espèce de ramassis un peu désordonné. Ils sont tous très maquillés, etc.
Oui, mais beaucoup d'eyeliner.
Voilà, beaucoup d'eyeliner. Enfin, c'est quelque chose. On voit absolument pas, c'est vrai, on va peut-être rentrer à un moment dans les scènes de bataille aussi, mais enfin, la scène de bataille, parce qu'en fait, fonctionnellement, il n'y en a qu'une seule qui est à peu près bien. Mais enfin, c'est une sorte de ramassis désordonné de esclaves, selon les termes des Grecs. Et ça, en fait, bon, c'est à peu près ce qui apparaît dans les sources grecques, c'est-à-dire le fait que, bon, bah voilà, ça n'est que des esclaves. C'est tout à fait toutes les sources classiques politiques grecques de la différence entre les Grecs et les Perses, c'est que les Perses sont des esclaves alors que nous, on est des hommes libres, etc. Mais le fait est qu'on sait que ça n'est pas ça, que l'Empire perse est extrêmement structuré, y compris militairement, et extrêmement efficace. Et ça, on ne le voit pas du tout dans le film.
Pas du tout. En fait, en s'appuyant sur une historiographie datée, Oliver Stone, mais peut-être malgré lui, en fait, retombe dans une vieille historiographie qui est l'historiographie coloniale, avec cette idée que les Occidentaux apportent la civilisation à un Orient qui est vu comme, comme immobile. À un moment donné, Alexandre dit d'ailleurs, ces gens ont besoin, alors il dit pas ils ont besoin de nous, ils ont besoin de changement. Et en fait, cette idée que, là c'est vraiment un orientalisme, hein, cette idée de l'immobilité d'un Orient arriéré, avec des populations quasiment asservies, qui ont besoin de liberté, qui ont besoin d'ouverture à l'Occident, hein, pour en quelque sorte s'élever.
Et qui ont besoin de quelqu'un qui est passé par les cours d'Aristote, expliquant la supériorité des Grecs sur les barbares. Voilà, il y a cet arrière-plan-là aussi.
Oui, mais alors justement, il a reçu ses enseignements, mais tout au long du film, il finit par en prendre le contre-pied. Très souvent, il dénonce le racisme de ses officiers. Et à un moment donné, vers la fin, il dit justement, vous devriez avoir plus de respect pour un monde plus ancien que nous. Donc il y a quand même un plaidoyer contre le racisme, pour la tolérance, mais en même temps, une vision très caricaturale de ces populations et de leur société. Et là, donc, il tombe complètement dans l'historiographie coloniale d'Alexandre.
Alors on peut dire d'ailleurs que Robin Lynn Fox est un conseiller historique qui connaît bien l'histoire d'Alexandre, mais c'est aussi quelqu'un qui est né en 1946, qui a fait ses études et grandi à l'époque où c'était les livres de Tarn notamment, qui expliquaient qu'Alexandre c'était la fraternité humaine, les grands articles, les livres de Tarn, c'est les années 1920-1930, c'était l'esprit de Genève en gros, Alexandre qui va réunifier le monde et réunifier l'Orient et l'Occident. Et du coup on peut penser que Robin Lynn Fox il a pas joué le contrepoint qu'aurait joué disons une génération un peu plus récente de spécialistes.
Alors Robin Lynn Fox lui-même, je ne sais pas, parce qu'il devait être averti toute cette historiographie, mais dans son livre des années 70, c'était sans doute peu présent. Il faudrait le regarder. Alors sans doute que l'idée de fusion des races que Stone reprend à son compte, je pense qu'elle était déjà battue en brèche à l'époque du livre de Lynn Fox. Mais Stone n'en a pas du tout tenu compte. Il la remet en avant, cette idée que le grand projet d'Alexandre, c'était que toutes les populations se mélangent, se mêlent et soient considérées comme égales. En fait, c'est pas du tout ça son projet. Son projet, c'est un projet politique d'alliance entre les élites macédoniennes et les anciennes élites de l'Empire achéménide, des élites iraniennes, hein, je dis iraniennes parce qu'il n'y a pas que des Perses, il y a aussi des Mèdes, des Hyrcaniens. Et il faut que ces élites collaborent, tout simplement parce qu'Alexandre a bien compris que cet empire, il ne pourra pas le tenir avec ses seuls Macédoniens. Et c'est pour ça qu'il les accepte à sa cour, et c'est pour ça aussi qu'il s'inspire de leurs habitudes en termes de pratique du pouvoir, parce que tout simplement, il a besoin de cette alliance. Mais ce n'est pas du tout un grand projet humaniste de fusion des peuples, pas du tout.
Juste pour terminer sur Robin Lynn Fox, il faut signaler qu'il a eu le bon goût de ne pas se faire rémunérer pour sa collaboration comme conseiller historique, sauf d'une manière bien précise, qui témoigne peut-être d'un certain manque de distance vis-à-vis de toute cette période. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a fait?
Oui, alors Robin Lynn Fox, il faut savoir qu'il est lui-même cavalier, il dit qu'il monte depuis qu'il a 10 ans. Et donc,
mais ça, disons-le, c'est une partie du problème, il fait de la chasse à cour dans les campagnes autour d'Oxford. Enfin,
je ne connais pas exactement ses origines, mais je pense qu'il
vient dans un article qu'André a trouvé, il dit Oliver Stone lui dit attention vous allez être blessé, il dit moi je chasse leur dard depuis des décennies dans la campagne, donc oui très bien, mais enfin je veux dire à bien des égards c'est un universitaire oxfordien de sa génération et de son milieu social, quoi. Il vient d'Eton, enfin c'est pas...
Oui, oui, voilà.
Il est situé comme... voilà.
Absolument, et c'est d'ailleurs avec ce background social qu'il a effectivement appris très tôt à monter à cheval. Et donc ce qu'il demande très rapidement d'ailleurs Oliver Stone dès leur première rencontre, c'est de pouvoir chevaucher avec les hétéroïdes, les compagnons d'Alexandre lorsqu'il y aura des scènes de bataille, des scènes de charge. Alors au début Oliver Stone est très très prudent parce qu'il lui dit que ça posait d'énormes problèmes d'assurance, je suis pas sûr de pouvoir vous l'accorder, puis finalement bon ça s'arrange
mais là où c'est pas inintéressant c'est qu'il dit c'est les questions de la reconstitution historique, il dit j'ai appris des choses et j'ai compris des choses sur une charge de cavalerie parce que certes on peut faire du cheval mais tant qu'on n'a pas chargé avec 40 chevaux on comprend pas très bien les problématiques de transmission d'informations etc 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 et c'est bon,
ça... Absolument, il y a des projets d'ailleurs d'archéologie expérimentale, de reconstitution à but scientifique pour aussi mieux comprendre effectivement les manœuvres de cavalerie, ça existe autant pour la cavalerie romaine que pour la cavalerie grecque, hein. Il y a déjà eu des expériences menées dans ce sens là.
Alors on va reparler évidemment de cette grande charge de cavalerie à Gaugamel, qui est un morceau de bravoure du film. Avant, il faut quand même faire un tour d'horizon des grosses faiblesses du film. On peut l'apprécier et être lucide sur le fait qu'il y a des choses qui vont pas, que les scènes à Alexandrie avec Ptolémée joué par Anthony Hopkins récitant une exposition en voix off absolument interminable devant des mosaïques censées représenter une carte de la Méditerranée avec un mélange de latin et de grec. Enfin, il y a des choses vraiment qui fonctionnent pas. Alors, peut-être à tour de rôle, lancer Alexandre d'abord sur sa passion de dire du mal d'Alexandre, mais voilà, qu'est-ce qui ne va pas dans ce film? Quelles sont ces grosses failles en dehors, on va dire, de votre ennui général, on a bien compris, mais si on devait ressortir des points qui sont particulièrement problématiques.
Je pense qu'il y a un problème central qui est qu'il a sans doute essayé de faire un Apocalypse Now ou une adaptation de Au cœur des ténèbres, c'est-à-dire quelqu'un qui progressivement descend et monte vers la folie. S'enferme en entrant dans un pays étranger auquel il essaye de s'acculturer sans réussir, etc., etc. Ce qui est un projet qui n'est pas délirant et qui n'est pas totalement déconnecté de ce qu'on sait vraiment de l'épopée d'Alexandre et de ses dernières années, du moment où il se coupe de ses compagnons, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, le film n'est pas construit pour ça. Enfin, Apocalypse Now, ça ne marche pas avec des flashbacks.
Il y a une grosse contradiction entre le propos et la structure.
C'est ça, on ne peut pas suivre quelqu'un dans sa folie progressive et toujours croissante et revenir toutes les 10 minutes à son enfance. Enfin, on perd le spectateur là-dedans complètement. Après, on peut reparler du jeu d'acteur de Colin Farrell, etc., etc. Mais même ça, bon, peut-être qu'on refera un tour, peut-être que j'aurai d'autres choses à dire derrière, mais en tout cas, fondamentalement, s'il y a un projet artistique qui est intéressant et qui reprend des grands classiques, notamment de la guerre du Vietnam, en tout cas la forme elle n'est pas adaptée pour qu'on le suive là-dedans.
Je signale à ce propos que s'il y en a que ça intéresse, qui se disent malgré tout peut-être qu'il faut donner une chance à ce film, il existe en ligne, visible, un montage dit de A à B, un remontage linéaire qu'a fait un fan du film qui s'appelle Jason Peterson, vous pourrez le retrouver facilement, peut-être qu'on mettra le lien, et qui permet de voir le film dans l'ordre chronologique, ce qui en fait lui donne une qualité bien meilleure.
Auquel cas là il faut survivre à la première demi-heure sur l'enfance où il n'y a plus de passage intercalé, parce que 35 minutes où on voit juste Ptolémée et Alexandre bébé, il faut rester dans son écran.
Bon, je vais essayer de répondre point par point à ces critiques.
Peut-être pas de répondre, parce que justement, ça m'intéresserait de peut-être pas de répondre justement, mais plutôt essayer d'aller dans le même sens, parce que même en appréciant le film, il y a forcément des choses qui vous ont heurté.
Donc,
qu'est-ce que vous avez relevé qui est le moins réussi dans le film?
Mais en fait, les principales critiques qu'on peut faire à ce film, en fait, elles sont toujours un peu ambivalentes. Par exemple, on parlait de la voix off, mais et du narrateur. Alors cette voix off et ce narrateur peuvent paraître pénibles, un peu lourds, un peu didactiques,
surtout un peu visuellement ridicules, il faut bien le dire.
Oui, c'est aussi possible, mais en fait ça vient résoudre deux autres problèmes, et c'est pour ça que je dis que tout ça est assez ambivalent. Le premier, c'est le problème, en fait, et Stone l'a toujours dit, d'une histoire d'Alexandre, qu'il considère que c'est une histoire en 5 actes, mais lui, il a pour monter son film, il faut qu'il le fasse, qu'il le réduise en 3 actes. Et donc forcément, il va devoir faire des coupes. Il a décidé de faire des coupes énormes au niveau notamment de la première partie de la conquête d'Alexandre, et s'il fait cette coupe, c'est notamment parce que ça a été traité en long, en large et en travers par le précédent Alexandre de 1956 de Robert Rosen, et que ça l'intéresse moins, parce que lui ce qui l'intéresse c'est la période des doutes, c'est lorsque la campagne commence à traîner, c'est le bourbier afghan, c'est l'Inde, c'est le Vietnam, voilà, c'est ça, il retrouve en fait c'est son intérêt pour le Vietnam. Donc la voix off, elle vient, alors c'est parfois un peu brutal, hein, mais elle vient résoudre ce problème, parce que parfois on a des coupes énormes. À un moment donné, on a effectivement Ptolémée qui débite pendant plusieurs minutes en fait tout ce qui s'est passé entre 336 et 331. Et alors là, effectivement, c'est violent pour le spectateur, surtout s'il connaît pas très bien l'histoire d'Alexandre, parce que ça va très vite et on comprend rien. Mais ça permet aussi à Alexandre à Oliver Stone, pardon, de placer une autre idée d'emblée. C'est qu'en fait, pour lui, en fait, personne ne sait qui était Alexandre. Et en cela, il a raison. C'est-à-dire que selon lui, en fait, on ne peut savoir d'Alexandre que ce que certaines personnes ont bien voulu en dire en fonction de ce qu'ils voulaient voir en lui. Et donc, c'est le cas de Ptolémée à la fin du IVe siècle lorsqu'il rédige ses mémoires. C'est le cas d'Arien de Nicomédie au IIe siècle après Jésus-Christ lorsqu'il s'appuie sur les mémoires de Ptolémée pour raconter son Alexandre. Et puis, c'est le cas de 1300 ans plus tard aussi d'Oliver Stone. Donc, l'idée qui est sous-jacente, c'est que finalement, en fait, c'est pas Alexandre, c'est des visions d'Alexandre, dont la vision stonienne d'Alexandre qui se superpose à l'ensemble du film. Alors, même si, bon, effectivement, on peut lui reprocher parfois à Oliver Stone d'avoir tendance à oublier cette relativité, puisque des fois on le sent quand même, il adopte un point de vue interne et qu'on le sent très fier de sa reconstitution, on a l'impression que son Alexandre est Alexandre. Mais en fait, il y a quand même cette idée qu'en fait, ce sont que des visions en fait d'Alexandre en fait. Et donc c'est pas une archéologie du personnage, mais c'est plutôt véritablement en fait Alexandre. Enfin, le film Alexandre, c'est une réception de l'Antiquité par un artiste très engagé. Et en fait, ça, voilà, c'est une vision imaginaire d'Alexandre. Et ça, je pense qu'il l'assume plutôt bien. On en parlera tout à l'heure avec le problème oedipien d'Alexandre, hein, qui n'est pas du tout historique, mais qui est quelque chose qu'il projette sur lui, et qui, je trouve, même si ce n'est pas historique, ça fonctionne plutôt bien.
On aurait pu imaginer qu'effectivement, on pouvait jouer ce topic du narrateur incertain, du narrateur non fiable, mais à ce moment-là, peut-être à travers différentes versions d'une même scène. Voilà, là le projet, à mon avis, n'est pas totalement abouti. On en voit l'intérêt, mais il aurait peut-être pu aller plus loin.
Parce que ça passe par la voix off. Effectivement, le texte d'Anthony Hopkins, c'est d'ailleurs pas si mauvais que ça, puisqu'il dit à un moment... alors, il disait que c'était le fils d'un dieu, c'est un mythe, et évidemment, chacun voyait son Alexandre, il le dit. Mais effectivement, ça n'est jamais montré, et donc ça reste juste bavard, et on n'a pas... Enfin, la matière du filmique ne montre pas cette idée-là, quoi.
Je reviens sur un autre problème de structure qui aurait, à mon avis, donné plus de dimension au film. Vous avez dit, il y a 5 actes dans cette carrière, il n'en montre que 3. À mon avis, il y a quelque chose de manquant, qui est... Il y a des scènes avec Alexandre et son père, la scène du cheval dont on a parlé, la scène du mariage de Philippe, où Philippe est assassiné, et Alexandre lui succède plus ou moins volontairement. Il y a une petite ambiguïté là-dessus, mais à mon avis, il y aurait pu y avoir une chose assez intéressante qui aurait été Alexandre et Philippe ensemble soumettant les cités grecques. Et la victoire de Chéronée en 338 et la Macédoine devenant la seule puissance incontestée du monde égéen. Et pourquoi je dis ça? Parce que, d'une certaine manière, dans le film, on va retrouver en filigrane quelques allusions, une allusion à Thèbes ici, une allusion à des Grecs qui viennent au banquet là, et plutôt d'ailleurs intéressante avec...
Thèbes, parce que rappelons, Alexandre a massacré la ville de Thèbes du fait de sa résistance pendant sa conquête de la Grèce continentale.
Absolument, et puis rappelons aussi que les Macédoniens sont des Grecs, mais des Grecs un peu particuliers, que le dialecte macédonien c'est du grec, mais avec des variations lexicales, syntaxiques, etc. Autrement dit, cette idée que les Grecs et les Macédoniens ne sont pas tout à fait identiques et qu'il y a une tension entre les deux, elle pouvait être mieux montrée. Elle est suggérée notamment par l'usage des accents. Alors ça, c'est plutôt un truc intéressant dans le film. Les Grecs du film, les Grecs des cités, parlent avec un accent britannique, poche.
Irlandais, il a beaucoup...
Les Macédoniens. Les Macédoniens ont l'accent irlandais, justement pour suggérer qu'ils sont dans ce décalage et un peu méprisés, déconsidérés par les British qui seraient les Grecs des cités. Donc ça, mais c'est vraiment en filigrane. Et à mon avis, il manque quelque chose de plus net.
Et les Grecs des cités, on ne les voit quasiment jamais. On les voit dans deux banquets. À un moment, ils sont plus ou moins censés trinquer. Bon, mais ça n'apparaît jamais, cette tension-là.
Alors que c'est une tension plutôt intéressante, et même d'un point de vue dramaturgique, elle aurait pu jouer un rôle.
Et c'est une tension qui est centrale d'ailleurs, puisque c'est quand même ce que les Macédoniens passent leur temps à dire à Alexandre, c'est... Calmons-nous sur l'Orient. Déjà, si on réussissait à bien contrôler la Grèce, ce serait pas mal. Il faut aller revenir. Enfin, c'est notamment ce que Olympias va souvent écrire à Alexandre. Il faut revenir pour consolider son pouvoir sur la Grèce, assurer ses bases, etc. Et ça, on n'a pas cette impression-là, qu'en fait, les bases sont pas solides, puisqu'on voit jamais cette problématique grec-macédonienne.
Oui, effectivement, les Grecs, on ne les voit jamais. Et le sort de Thèbes, il est évoqué en une phrase ou deux par Ptolémée.
Qui a été coupé dans une des autres versions.
Ah, qui a été coupé en plus. Ah, bah, c'est dommage. Parce qu'en plus, justement, là-dessus, il insiste en disant les ennemis d'Alexandre lui ont toujours ressorti, en gros, cette histoire de Thèbes. Ce qui montre aussi que, là, des réticences de Stone à considérer les violences commises par les Macédoniens et par Alexandre en Asie. Dans une interview, il disait je considère, et justement, quand il se défendait de faire l'apologie de la politique de Bush en Orient, il disait justement qu'Alexandre c'était l'anti-Bush, c'est-à-dire que lui il avait su convaincre les populations locales et leur apporter le bonheur, contrairement
à
Bush.
Oui, à Gaza et à Persepolis, ouais. Ils étaient ravis d'ailleurs.
Donc il était effectivement très réticent.
La paix des cimetières quand même.
Et en cela, bah, par exemple, il faisait complètement l'impasse sur un courant historiographique qui a beaucoup mis en évidence la répression, les massacres en Asie, enfin tous les moments où Alexandre a, bon gré mal gré, a utilisé la violence pour imposer imposer son autorité. Donc, alors, pour revenir aux Grecs, ils n'apparaissent jamais parce que ça n'intéresse pas Oliver Stone pour deux raisons. La première, c'est que Robert Rosen l'a vraiment traité, mais très très longuement dans son Alexandre. D'ailleurs, quand on regarde le film de 56, on se demande quand la campagne va commencer. Et effectivement, quand elle commence, on arrive très vite à Gaugamel, et là, Robert Rosen s'arrête, hein, en gros, en disant, bon, bah, la suite, on s'en fiche. Darius est vaincu, et la fin est sous forme est avec un narrateur, justement, je crois, une voix off. Hein. Donc, il considère que ça a été traité, et puis ça ne l'intéresse pas, parce qu'en fait, je pense que entre les années 50 et les années 2000, le contexte géopolitique aussi, le contexte de les guerres dans le monde ont changé. En fait, à l'époque de Rosen, on est à l'époque de la guerre froide, les conflits entre États. Ça intéresse beaucoup Rosen d'explorer ces tensions entre les cités grecques, la Macédoine, pour l'hégémonie.
Oui, démocratie versus dictature, ce type de discours.
Ça l'intéresse énormément. Par contre, Oliver Stone, il s'en fiche complètement. Et lui, ce qui va l'intéresser, justement, c'est plutôt les dernières phases de la campagne, avec des guerres asymétriques, les difficultés qui commencent à apparaître en Bactriane, Sogdiane, en Inde. C'est ça qui l'intéresse, parce qu'il est inspiré par les interventions militaires américaines au Moyen-Orient.
Et puis ce qui l'intéresse aussi, il faut bien le dire, c'est les rapports d'Alexandre avec sa maman et son papa et son zizi, puisque c'est quand même un grand thème du film. On a Œdipe à Babylone, puisque le film insiste énormément sur les rapports compliqués d'Alexandre avec la sexualité, avec ses parents. Alors, on peut l'apprécier, j'imagine, notamment si on aime voir des gens dénudés, parce que aussi bien Angelina Jolie que l'acteur qui joue Bagoas, que Colin Farrell, que Rosario Dawson, voilà, passe une bonne partie du film à moitié à poil. Ceci dit, moi j'ai trouvé ça personnellement d'une certaine lourdeur, c'est pas du tout ce que je préfère dans le film. Comment vous interprétez, comment vous voyez cette insistance d'Oliver Stone sur pas seulement les questions matrimoniales, qui est effectivement une place politique centrale, mais les questions vraiment sexuelles et psychologisantes?
Oui, bah alors là, je pense qu'on est au cœur du malentendu entre Stone et le public. C'est-à-dire que Oliver Stone a entrepris de soumettre Alexandre à une véritable thérapie. C'est un peu Alexandre sur le divan de Freud. Alors, ses idées, il les a piochées dans des biographies romancées et un peu anciennes d'Alexandre, mais ça l'a beaucoup inspiré. Puis c'était déjà chez Rosen, je crois. Mais ça a beaucoup déçu le public, parce que cette approche psychologisante, parce qu'en fait, depuis Gladiator, on était habitué dans le néopéplum surtout à des combats spectaculaires et des épopées viriles. Et donc, le fait que Colin Farrell campe un roi blondiné avec des traits poupons qui sont volontaires. Stone l'a choisi parce qu'il avait des traits qui faisaient jeune, en fait, qui faisaient un peu poupon, il avait des traits doux, un peu féminins, sensibles.
Des yeux un peu mélancoliques.
Voilà,
des chiens battus.
Exactement, et en fait, il a choisi cet acteur volontairement. Et là, on est très très loin du macho musculeux qui transpire la testostérone, comme Russell Crowe ou Brad Pitt dans... Russell Crowe dans Gladiator, et puis Brad Pitt dans... dans 3.
Dans 3, qui est un bien meilleur film.
Donc effectivement, l'enfance et la jeunesse d'Alexandre tiennent une grande place dans ce film. Et d'ailleurs, le jeu des flashbacks, en fait, permet de relier le présent d'Alexandre avec ses souvenirs traumatiques de l'enfance, et notamment le flashback sur l'assassinat de son père, qui revient juste après le meurtre de Kleitos. En fait, hein, c'est l'histoire qui se répète, et on voit qu'il est hanté par la mort de son père. Et en fait, la grille d'analyse générale qui se dégage, c'est qu'en fait, Alexandre, c'est le témoin malheureux et l'otage d'un couple parental qui se déchire. Et il est constamment pris en étau entre, d'un côté, une mère possessive qui veut faire de lui un être exceptionnel, quitte à le pousser vers la mort, en fait, et qui l'enferme dans une relation fusionnelle presque incestueuse. Et puis, de l'autre côté, un père brutal, qui est indifférent, pessimiste, et qui le rejette parce qu'il voit en lui l'instrument de pouvoir de sa mère, et puis surtout qui l'incite à se méfier de tout le monde. Et là, la scène, la clé de lecture du film, je pense, on la trouve dans la scène de la caverne. C'est une scène de la jeunesse d'Alexandre, où son père, à un moment où ils s'entendent bien, bah justement peu de temps après Bucéphale, l'emmène dans une caverne où il y a des représentations mythologiques. Alors c'est pas du tout historique, mais ça permet en fait de placer des clés de lecture. Et on a plusieurs mythes qui sont présentés, qui sont en fait des reflets de l'histoire d'Alexandre, de ce qu'Alexandre est destiné à devenir. Alors en fait, il est assimilé à Achille parce qu'il recherche la gloire plutôt que la vie, hein, il est prêt à mourir pour la gloire. Il est Prométhée aussi parce qu'il apporte son aide à l'humanité, quitte à en payer le prix. Prométhée était condamné par Zeus à avoir le foie dévoré par un aigle. Il est aussi Héraclès en tant que vétéran de guerre traumatisé, hein, qui tue sa famille, hein, qui tue ses enfants parce qu'il est pris de folie. Et surtout, il est Œdipe, parce que il tue son père et épouse sa mère. Donc il y a une en fait en partant en guerre, Alexandre il cherche en fait à fuir une mère qui l'étouffe et le souvenir d'un père qu'il pense avoir indirectement assassiné.
Oui, d'accord, mais alors ça, c'est le côté, c'est le scénario et ça peut être pas mal, mais ensuite il y a la mise en œuvre et là on peut dire, bon alors après c'est toujours, c'est la grande époque d'Angelina Jolie où elle est extrêmement belle, extrêmement séduisante, d'ailleurs avec un problème fondamental, on peut en parler, qui est le problème du casting, hein, puisque rappelons qu'elle n'a qu'un an de plus que Colin Farrell.
Donc, elle est censée jouer sa mère.
Et elle est censée jouer sa mère. Et en fait, c'est un problème central à Hollywood, cette incapacité totale et radicale toujours à caster des femmes au-delà d'un certain âge. En fait, on ne casse que des femmes jeunes. C'était un problème qu'on avait déjà vu pour le Napoléon de Ridley Scott. Et puis, au-delà de ce problème, disons, structurel, mais qui était, dont on avait sans doute moins conscience en 2004, il y a, enfin, je veux dire, c'est lourd, quoi. C'est très, très, très lourd avec, alors là, elle est à moitié hystérique, elle a des serpents en permanence autour d'elle, donc les symboles phalliques bien lourds. Enfin bon, c'est, je veux dire, c'est pas fait avec beaucoup de subtilité ni beaucoup de grâce. Et on a une espèce.
Qui me surprend de l'auteur de JFK, d'ailleurs.
Exactement. Mais on a une espèce de morceau de. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle est dans son film. Enfin, il y a le film Angelina Jolie qui pourrait être un mélodrame psychologisant centré sur un personnage, et, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste du film, ni avec l'épopée d'Alexandre, d'ailleurs.
Alors, ça, c'est vrai que la mise en scène, on peut l'apprécier ou non. Sans doute, elle n'est pas exemple de lourdeur, hein, ça, c'est évident. Mais moi, le jeu d'Angelina Jolie me plaît. Alors, c'est sûr qu'il y a cette différence, cette faible différence d'âge qui a été soulignée. Bon, globalement, ils arrivent quand même à rajeunir un peu par le maquillage, etc. Ils arrivent quand même un peu à rajeunir Colin Farrell, qui fait un peu moins que son âge, et à vieillir un peu Olympias, qui fait un peu plus, elle, qui fait un peu plus que son âge. Donc, je trouve que, bon, moi, à l'écran, ça me gêne pas plus que ça. Alors, effectivement, maintenant, j'y prête attention, et parfois, ça me fait sourire, mais ça me gêne pas. Et je trouve son jeu, en fait, très, très puissant. Je pense par exemple à cette scène, bah justement après la mort de Philippe, où elle appelle Alexandre à saisir l'opportunité politique qui se dessine plutôt que de se lamenter sur la mort de son père. Et là, on est au cœur des intrigues de cour de la Macédoine. On voit une reine dans toute sa puissance politique. Hein, et c'était ça dans la cour de Macédoine. Hein. Comme les rois étaient polygames, il fallait que chaque reine tire son épingle du jeu pour évincer les autres. Donc on n'était pas du tout dans des transitions politiques douces et bien préparées. Au contraire, c'était souvent chaotique et je trouve que cette scène elle est extrêmement puissante grâce au jeu d'Angelina Jolie qui on voit qu'elle est elle est sans pitié et on voit aussi l'emprise qu'elle exerce sur son fils. Alors, de ce point de vue là je trouve que c'est intéressant.
Alors il y a une autre chose intéressante, même si là encore la manière dont c'est fait est assez lourde de mon point de vue, mais disons que le film assume le potentiel homosexuel, homoérotique des relations d'Alexandre, aussi bien avec Héphaïstion, le plus proche de ses compagnons, qu'avec Bagoas, cet eunuque de l'Empire Achéménide, avec qui il a une relation très proche. Et je le souligne malgré tout parce que, exactement contemporain d'Alexandre, c'est le film 3 de Wolfgang Petersen, où là, pour le coup, on voit que pour le public états-unien, on a beaucoup de mal à assumer qu'il puisse y avoir quoi que ce soit entre Achille et Patrocle, puisque Patrocle devient le cousin d'Achille pour bien faire comprendre qu'Achille, voilà, il est dévasté par la mort de son cousin, et pas du tout par le fait qu'il a perdu quelqu'un de très proche avec qui il pourrait y avoir ce type de relation. Donc là, le film est plutôt plus honnête de ce point de vue-là, dans ce qu'il montre au spectateur par rapport à d'autres constitutions de l'Antiquité.
Oui, tout à fait. Alors, Alors, je suis tout à fait d'accord, mais il faut remarquer que ça a été perçu par le public comme un problème.
Ah bah c'est-à-dire oui, que ça, c'est sûr que c'est.
Aux États-Unis,
on était en 2004 aussi.
Il y a eu un déchaînement de violence. Alors, il me semble qu'il y a même eu un procès intenté à la maison de production, hein, en disant non, mais Alexandre n'était pas gay. Qu'est-ce que c'est que ces mensonges, etc. Ça a fortement déplu. En plus du public américain, ça a fortement déplu aux Grecs aussi. Donc il y a eu un rejet comme si c'était inacceptable qu'un héros puisse pas avoir une sexualité conventionnelle comme on l'entend aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, il y a eu aussi beaucoup de critiques qui ciblaient le fait que c'était trop suggéré et pas assumé. Et au contraire, une autre partie du public aurait voulu faire d'Alexandre une icône gay. Ce qui ne pouvait pas être non plus, puisque socialement, les choses n'étaient pas du tout envisagées de la même manière en Grèce ancienne. Donc finalement, le traitement d'Oliver Stone, alors oui, je le trouve un peu appuyé, parce que ça donne l'impression que Oliver Stone a découvert quelque chose sur Alexandre. Oh là là, j'ai un scoop sur Alexandre.
C'est peut-être utile de préciser ce qu'était la sexualité en Grèce ancienne, qui ne se comprend pas du tout sur un spectre homosexuel, hétérosexuel, qui se comprend sur un spectre social, d'inscription familiale, de il faut se marier avec une femme à un moment pour avoir des enfants, pour avoir une progéniture. Et à côté, il y a un spectre de sexualité beaucoup plus large, y compris avec d'autres hommes, mais qui passe pas forcément par de la sexualité, par l'acte sexuel. Alors, je veux dire, c'est ça, globalement, le cadre général de la sexualité au IVe siècle en Grèce ancienne. Et de ce point de vue-là, c'est assez fidèle, ça ressemble assez à ce qu'on sait, ce qu'il y a dans le film. Et c'est juste, il n'y a rien de très nouveau, il n'y a rien de très choquant, tout ça. Ce n'est pas une prise de position incroyable, c'est juste assez juste, quoi.
Non, oui, ce n'est pas une prise de position incroyable, mais on peut trouver soit qu'il insiste trop dessus, soit qu'il insiste pas assez, selon les points de vue. Moi, je trouve que son traitement, il est assez équilibré, parce que je le trouve assez clair sans être trop lourd. Mais après, effectivement, du point de vue du public, ça a été soit trop, soit pas assez.
Juste, et j'insiste une seconde de plus, parce qu'il y a un détail qui, encore une fois, passe totalement inaperçu, mais qui est extrêmement juste, qui est le viol de Pausanias. Pausanias, qui est donc l'assassin de Philippe. C'est une histoire très compliquée, je ne sais même pas si on a le temps de la raconter là, mais
on peut la résumer,
c'est-à-dire c'est un page qui à un moment est jaloux, etc., et qui, du fait de Attal, qui est donc un parent, qui devient le beau-père de Philippe, puisqu'il réussit à faire épouser sa fille à Philippe, bref, Attal fait en sorte que Pausanias soit violé par de multiples hommes, au cours d'un banquet, on le voit vraiment au détour d'un plan, notamment par Philippe, et c'est en raison de ça que Pausanias, voulant se venger d'Attal, aussi d'Attal et de Philippe, aurait assassiné Philippe. Mais là où c'est une partie importante, et Oliver Stone effectivement nommait pas ce détail parce qu'il est important pour comprendre pourquoi Philippe a été assassiné. C'est très discret, mais ça renvoie à une autre dimension de la sexualité en Grèce ancienne, qui est la dimension de violence, qui est la dimension de domination. Enfin, il ne s'agit pas de dire que les Grecs étaient des personnes sensuelles qui ne passaient jamais à l'acte. La sexualité aussi avait aussi une fonction de domination homosexuelle, et c'est ça qu'on voit très bien dans ce truc qui n'est absolument pas exploité, malheureusement.
Oui, tout à fait. Sauf que la différence, c'est que lorsque Pausanias a des relations avec le roi, d'après les sources, hein, ce sont des relations consenties qui lui permettent aussi d'être proche du pouvoir, d'avoir un rôle important à la cour. D'ailleurs, c'est un des gardes du corps de Philippe. Mais la différence, c'est que quand il est violé par les hommes d'Attal, Attal fait exprès justement de le faire violer par des esclaves, par des gens d'un roi inférieur. Pour Pausanias, il y a une infamie, il y a une injustice à réparer, et c'est pour ça que dans un premier temps, il demande à Philippe de faire justice. Mais Philippe ne veut pas désavouer Attal parce qu'il a besoin de lui dans le cadre de... C'est un homme important de la cour et de l'armée, et il a besoin de lui dans le cadre de sa future campagne militaire, donc il ne donne pas suite à la demande de justice de Pausanias, d'où effectivement la vengeance de Pausanias qui assassine le roi.
On voit qu'effectivement les spectateurs états-uniens auraient beaucoup plus apprécié le film s'ils avaient tous lu Le Que sais-je de Pierre Brion avant. C'est effectivement une lecture nécessaire. Alors, on va faire l'inverse du film. Le film nous place très vite dans la bataille de Gaugamel et ensuite déploie sa narration. Nous, on a attendu les 46 premières minutes pour en parler, de ce qui est le morceau de bravoure, et à mon avis, l'une des plus belles batailles, en tout cas pour l'Antiquité, sans doute la plus belle bataille jamais filmée au cinéma. Je le dis, point de vue personnel, mais beaucoup de gens concordent plutôt avec cette opinion. Je le dis doublement parce qu'elle est à la fois visuellement belle. Les tons ocre, la scénographie, la vue d'aigle avec l'oiseau qui permet d'avoir cette vision en hauteur de la disposition des troupes, et elle est lisible. Et alors ça, c'est moi ce qui m'a touché énormément, parce que je sature des montages cuts, des scènes de bataille, aussi bien dans Gladiator que dans Game of Thrones, où on a des mêlées absolument confuses, indescriptibles, où rien n'est montré à part de la violence souvent gratuite. Là, on a une lisibilité très forte, avec même des petits sous-titres qui indiquent droite macédonienne, centre macédonien, gauche macédonienne, pour savoir où on est, qu'est-ce qu'on fait, et du coup est restitué dans cette bataille une manœuvre fameuse, que peut-être vous allez nous expliquer un petit peu. Est-ce qu'on peut rentrer dans la manière dont cette bataille est montrée?
Oui, alors là, pour moi, c'est un coup de génie, parce qu'on sait qu'Oliver Stone, il aime, et ça pour le coup, c'est pas nouveau, il aime filmer la violence des combats, il aime justement mettre sa caméra à hauteur d'homme, dans l'intensité du corps à corps. Donc, et il le fait bien, par exemple, pour la bataille de Lidasp, dont on parlera peut-être plus tard. Il le fait aussi à Gogamel en partie, mais il joue avec les échelles, et le fait effectivement qu'il ait une vision aussi surplombante par le biais de l'aigle qui survole le champ de bataille, ça permet, et c'est assez exceptionnel, d'avoir une lisibilité totale de la tactique employée. Alors, la tactique employée, en fait, c'est une tactique de coordination entre les différentes armes qui sont à la disposition d'Alexandre. Évidemment, Alexandre est en infériorité numérique, ça se voit bien sur les plans larges, hein, et le risque, c'est qu'il soit enveloppé sur ses deux ailes par la cavalerie perse, qui est très nombreuse. Il y a l'élite de la cavalerie perse, iranienne en général, et même de toutes les hautes satrapies qui est présente à cette bataille. Et c'est d'ailleurs pour ça que Darius a décidé de livrer bataille sur ce terrain, c'est parce qu'il est très vaste. Donc ça permet de faire des grandes manœuvres.
Un terrain d'ailleurs qui, je crois, n'a jamais été retrouvé par les archéologues. En tout cas, on ne s'est pas totalement placé où se trouve Gogamel en Babylonie.
Ça se situe plutôt du côté du Kurdistan irakien maintenant. Je crois qu'il y a une équipe italienne qui mène des prospections dans cette zone.
En tous les cas, ça a été tourné au Maroc.
Mais ça a été tourné au Maroc et ils ont mis les moyens, hein, 2000 figurants. Celui qui a coordonné la formation des figurants, c'est un ancien Marines qui visiblement avait des méthodes extrêmement... qui était très cachées.
Un ancien Marines, c'est Dale Dye, qui est un mec complètement allumé, qui est, soit dit en passant aussi, qui était le conseiller historique de The Beast, un film dont on a parlé récemment dans le podcast, qui est vraiment un mec qui a acheté des chars israéliens. Il faisait toutes sortes de magouilles pour réussir à monter ses films. Et quelqu'un de tout à fait doué, apparemment.
Ouais. Oui, c'est lui qui a coordonné un petit peu tout ça. Alors, au niveau de la tactique, elle est fidèle à ce qu'on lit chez Arrien. Je rappelle qu'Arrien donc, se fonde en partie sur les mémoires de Ptolémée. Et il se trouve que Ptolémée, il était dans la cavalerie, donc il a souvent un point de vue assez bien informé sur les opérations à l'aile droite.
Rappelons que c'est classique dans toutes ces batailles, Alexandre tient la cavalerie sur l'aile droite.
Voilà, Alexandre, effectivement, et c'est différent du positionnement de Darius, hein, on le voit bien en face. Darius est au centre de son armée pour pouvoir donner tous les ordres, voir ce qui se passe, être au courant des choses et pouvoir réagir en donnant les ordres. Alexandre, au contraire, il est dans le feu de l'action, à l'aile droite. Donc lui, dans l'action, c'est très bien aussi de l'avoir montré dans cette bataille, il est assez peu et assez mal informé de ce qui se passe dans le reste de son armée. Il faut imaginer un front de 10 km. Et ça, le film le montre bien. On est dans la poussière, donc on n'y voit pas plus de 3 mètres, hein, si on n'a pas une position de hauteur, si on est dans la mêlée. Il y a des difficultés à transmettre les ordres. Hein. On voit bien entre l'aile gauche, lorsque l'aile gauche de Parménion est enveloppée, qu'elle est sur le point de céder, on est obligé d'envoyer un courrier à cheval à Alexandre pour lui dire « Reviens de la poursuite, on a besoin d'aide. » Et puis, il y a des choix à faire. Et là, on le voit bien chez Alexandre, le choix entre continuer la poursuite avec la possibilité de d'abattre l'armée adverse, hein, en massacrant les fuyards et surtout en capturant le chef ou en le tuant, ou revenir pour aider le reste de l'armée qui est en difficulté. Et dans ce choix, on peut tout perdre, parce qu'on peut aussi prolonger la poursuite. À l'époque hellénistique, il y a beaucoup de batailles qui finalement ont été perdues par ceux qui étaient en train de l'emporter. Ils ont prolongé la poursuite trop longtemps, et quand ils sont revenus sur le champ de bataille, ils ont découvert qu'en leur absence, leur armée avait perdu. Donc il y a pas mal de choses. On voit bien la confusion de la mêlée, effectivement, avec la caméra à l'épaule au cœur de la bataille. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très très bien recréées. Et au niveau de la tactique, en fait, Alexandre donc essaye de coordonner sa phalange macédonienne avec les longues saris, hein, de 6 mètres et demi.
Ça, sont des longues lances.
Oui, c'est les longues lances de l'infanterie lourde.
Hein, voilà, c'est ce qui a permis, finalement, c'est l'un des outils militaires qui ont permis à Philippe, le père d'Alexandre, de dominer le monde grec. C'est cette nouvelle formation extrêmement disciplinée avec de longues saris qui ont vaincu les phalanges hoplitiques pratiquement à toutes les batailles menées depuis les années 350 jusqu'aux années 330.
Oui, absolument. Et on voit bien que l'un des intérêts de ce nouvel armement, en fait, c'est l'effet d'allonge qui permet de toucher l'infanterie adverse avant qu'elle ne puisse arriver au corps à corps. Et ça se voit très bien dans la bataille. Mais tout l'enjeu pour Alexandre, de coordonner cette phalange avec sa cavalerie. La victoire, elle est vraiment obtenue par, par un effet des deux, hein, qui sont, qu'on a parfois appelé la tactique du marteau et de l'enclume, au sens où l'infanterie serait l'enclume qu'on ne peut pas briser et sur laquelle on va écraser l'ennemi avec la cavalerie, la cavalerie étant le marteau. Bon, en réalité, c'est pas tout à fait une enclume, hein, l'infanterie, parce qu'évidemment, elle se contente pas d'attendre, hein, elle avance et elle fait pression sur l'adversaire. Mais le problème pour Alexandre, en fait, avec sa cavalerie, c'est qu'étant donné qu'il est en infériorité numérique et qu'il ne peut pas vraiment se permettre d'envelopper l'armée adverse, il lui faut, en fait, il lui faut créer une brèche dans le dispositif adverse, une brèche qui lui permettra de s'engouffrer dedans et d'atteindre le cœur de l'armée perse avec Darius pour essayer de le tuer ou de le mettre en fuite. Et ça, on le voit très très bien, parce qu'on voit dès le début de la bataille Alexandre qui, au départ d'une manière un peu inexplicable, hein, pour le spectateur, allonge sa ligne vers la droite. Il allonge sa ligne vers la droite pour attirer l'aile gauche de cavalerie de Darius, hein, qui est commandée d'ailleurs par Bessos, le satrape de Bactriane, qui plus tard tuera Darius. Il allonge sa ligne, et une fois qu'il a suffisamment allongé sa ligne sur la droite, il crée un point de fixation avec Bessos, hein, en lui opposant quelques cavaliers, non, il y a aussi des combattants, on les voit frondeurs. Pas beaucoup, mais il y a aussi voilà, des frondeurs, des peltastes, des lanceurs de javelots. Et lui, Alexandre, rebifurque vers le centre. Donc on la voit bien, cette manœuvre. Après, je pense qu'il faut être quand même un peu au point sur l'histoire de la bataille pour vraiment voir que... Mais c'est plutôt bien mis en scène, hein, c'est plutôt clair. Donc il rebifurque en direction du centre de l'armée perse parce qu'en étirant sa ligne et en faisant venir pas mal de cavaliers perses vers la droite, il a créé une brèche en fait, dans le dispositif. Et c'est là-dedans qu'il s'engouffre avec l'élite de sa cavalerie. Et ça lui permet d'arriver jusqu'à Darius. Et quand Darius voit que les Macédoniens sont plus très loin de lui, il prend la décision de s'enfuir, mais ce qui va créer ensuite un effet de découragement dans toute son armée.
D'abord, un constat général qui est effectivement c'est extrêmement bien fait, avec notamment le rôle de la poussière. On voit très bien que ce que c'est de se battre dans un désert, en fait, on ne voit rien, on comprend rien. Enfin, on voit des longues traînes, etc. Donc, il faut essayer de deviner est-ce qu'il y a encore quelqu'un sous cette poussière, et c'est un peu ça qui se fait. C'est-à-dire, ils bifurquent en profitant de la poussière parce qu'il y a tellement de brouillard du coup qu'on ne voit pas tout de suite la manœuvre macédonienne. Je note quand même que, en fait, c'est comment dire, filmer la bataille comme ça, c'est la mort d'Homère. C'est-à-dire c'est la fin de filmer les batailles antiques comme des batailles homériques, ce qui est tout à fait le cas dans le 3 de Wolfgang Petersen, qui est tout à fait le cas dans la plupart des batailles, où c'est-à-dire des choses où on a des masses et où il y a des héros qui s'affrontent, ce qui n'est pas historiquement fidèle, mais ce qui est quand même le schéma absolument hégémonique depuis 3-4 000 ans sur la manière de considérer une bataille antique, c'est-à-dire littéralement des super-héros, puisque c'est tout à fait ça, les héros antiques, des super-héros qui s'affrontent au milieu d'une marée de grouillots, disons. Donc ça, effectivement, ça tranche, mais moi j'aime beaucoup ce topos, donc ça me chagrine quand même un peu. Mais simplement, enfin, un détail qui est, je ne sais pas à quel point il est historique, mais c'est toujours une grande question sur les scènes historiques de bataille, c'est le discours d'Alexandre avant, qui est, c'est toujours ridicule. Mais profondément ridicule, hein, quand il y a un général qui est censé faire un discours à une armée de plusieurs dizaines de milliers de personnes et qui parle à voix mi-haute devant les trois du devant, et c'est censé inspirer l'ensemble de l'armée. Ça, c'est un vrai problème qui s'arrête pas à cet Alexandre, etc. Mais c'est fondamentalement un problème, on comprend pas bien ce que c'est que l'éloquence. Avant une bataille, si on pense que c'est un discours politique qui est censé être transcrit par des micros. Ça n'est pas ça, ça ne peut pas être ça, puisque s'il y a 15 personnes qui l'entendent, donc soit c'est retransmis par des personnes qui répètent mais avec de la déperdition d'informations, soit que c'est quelque chose de beaucoup plus visuel, mais en tout cas ces choses-là, ces grands discours du grand général avant la bataille, qui sont effectivement souvent transmis par les sources, fonctionnellement ça ne peut pas fonctionner pour inspirer une armée, ça ne peut pas marcher.
Sur ce point, justement, je suis retourné voir Arien pour voir comment ça avait été organisé. En fait, dans les faits, la veille de la bataille, il reçoit les officiers, tous les officiers, et il leur transmet en fait les mots, en gros, les idées qu'il veut transmettre à ses hommes. Et chaque officier est chargé ensuite de répercuter les éléments de discours aux unités. Et ce que fait le roi, lui, en revanche, et ça c'est tout à fait historique, c'est qu'effectivement, il passe devant sa ligne de bataille, hein, il se montre à ses hommes. J'ai trouvé la scène moins kitsch que dans d'autres films, au sens où on voit bien qu'il peut pas parler à tout le monde. Et d'ailleurs, au fur et à mesure qu'il passe devant les rangs, il interpelle des gens comme ça. Les gens qu'il reconnaît, il dit « Ah oui, et toi, tu te rappelles, pense à ton frère qui est mort au Granic ou je ne sais quoi, des choses comme ça. » et là, on n'a pas l'impression que c'est vraiment le discours où les 50 000 hommes entendent tous très bien.
Cela dit, l'armée est représentée dans un silence de cathédrale, comme si tout le monde écoutait Alexandre qui parle devant.
Oui, c'est vrai. Après, là, on voit que les premiers rangs, évidemment.
Il y a un truc qui marche quand même, c'est le fait qu'il est acclamé. Il est acclamé par des Macédoniens qui hurlent en tapant leur saris sur leur bouclier. Ça, c'est attesté. Et pour le coup, c'est relativement plausible parce que c'est plus simple, effectivement, qu'un discours très élaboré.
Oui, c'est la manière de s'exprimer pour les soldats lors des assemblées des soldats, c'est de frapper la lance contre le bouclier pour faire du bruit.
Alors, comme vous avez soutenu à l'excellente université Montpellier 3 une thèse sur les cultures équestres du monde grec, une histoire culturelle de la guerre à cheval, peut-être nous en dire un petit peu plus sur la façon dont cette cavalerie était utilisée à une époque où il n'y a pas d'étrier, à une époque où monter à cheval ne ressemble pas à la cavalerie napoléonienne. Et pourtant, c'est déjà une arme dont l'importance est considérable. Alexandre, on sait qu'il a mené lui-même cette charge de cavalerie à la bataille de Chéronée, c'est son premier grand fait d'armes. Pourquoi pour les Macédoniens, plus peut-être que pour d'autres Grecs, est-ce que la cavalerie est devenue un outil militaire clé? Parce qu'on rappelle évidemment que les grandes batailles classiques de la Grèce antique, les batailles comme Marathon, c'est les batailles de Hoplite. Et là, la cavalerie devient quelque chose de plus important.
Oui, alors d'abord, il faut préciser que les Macédoniens ont, depuis l'époque archaïque, une cavalerie qui est une cavalerie aristocratique. Ce sont les élites qui servent dans la cavalerie. Une cavalerie qui est réputée comme étant plutôt bonne. Et ça a été longtemps donc le fer de lance de l'armée macédonienne parce que, à défaut d'avoir des couches moyennes dans la société, les Macédoniens ne pouvaient pas recruter véritablement d'armées hoplitiques comme le faisaient les cités grecques. Donc ils avaient en fait une aristocratie qui servait à cheval, et puis ensuite des masses paysannes qui pouvaient éventuellement fournir des combattants légers, mais il leur manquait ce noyau de l'infanterie lourde. Donc la cavalerie, c'est l'arme forte des Macédoniens depuis toujours. Les différences, c'est qu'à partir de l'époque de Philippe, déjà, le roi de Macédoine annexe la Thessalie, qui est connue pour être une terre d'élevage, une terre de cavaliers brillants, notamment dans les manœuvres. Et d'ailleurs, c'est pas dit dans le film, mais toute l'aile gauche de l'armée est tenue par les cavaliers thessaliens. En fait, Parménion, les cavaliers qu'il dirige à gauche, ce sont les cavaliers thessaliens. Et justement, on les utilise parce qu'en défense, ils sont très forts, parce qu'ils sont capables de faire des conversions, des manœuvres rapides, latérales, en arrière, etc. Donc pour bloquer les cavaliers ennemis, c'est parfait. Et ils ont brillé à la bataille d'Issos. À Gaugamel, ils ont été un peu plus en difficulté, mais c'est normal vu le terrain. Donc, le fait d'avoir uni ces deux cavaleries de Grèce du Nord, qui étaient parmi les plus fortes de la Grèce, déjà, ça a créé la plus forte cavalerie que la Grèce ait connue. Ensuite, évidemment, c'est les évolutions de la pensée tactique vers une coordination plus fine entre infanterie lourde et cavalerie, qui a permis à Philippe, par exemple, dès le début de son règne, de tester des manœuvres d'enveloppement, effectivement, d'arriver avec sa cavalerie à prendre l'infanterie ennemie de flanc ou par derrière, de l'écraser comme ça, comme je vous expliquais avec le principe du marteau et de l'enclume. Et comme ça fonctionnait bien, Alexandre a repris ce dispositif. Mais attention, Alexandre, il n'applique pas un schéma tactique prédéfini et rigide. En fait, le génie tactique d'Alexandre, c'est de s'adapter à chaque situation. Alors le principe, c'est toujours de créer une brèche pour s'y engouffrer, mais il ne procède pas de la même manière au Granic, à Issos et à Gaugamel. Et c'est ça qui est assez intéressant chez Alexandre et qui explique aussi pourquoi les manœuvres d'Alexandre, elles sont encore étudiées aujourd'hui dans les académies militaires.
Non, mais justement, c'est quoi les différences? C'est-à-dire que comment est-ce que, puisque là on a Gaugamel, on a vu Gaugamel, les autres, comment est-ce qu'il a fait?
Alors, au Granic et à Issos, il utilise une avant-garde de cavaliers. De cavaliers qui ont on appelle ça des saris, mais elles sont évidemment pas aussi longues que les saris d'infanterie, qui ont des longues lances. Il envoie aussi quelques-uns de ses compagnons. Alors évidemment, il sait que ces unités d'avant-garde, elles vont subir des pertes. Mais le but, en fait, c'est d'attaquer la ligne adverse et, en se repliant, après avoir subi des pertes, d'attirer l'ennemi et de désorganiser sa ligne. C'est comme ça qu'il procède au Granic, et ça lui permet donc d'ouvrir une brèche donc dans la ligne de cavalerie des satrapes perses. Par la suite, quand il commencera à recruter des unités de cavaliers asiatiques, et notamment des archers à cheval ou des lanceurs de javelots, il va utiliser ces cavaliers légers pour faire du harcèlement sur les lignes. Il les enverra donc en première, en en première salve pour faire du harcèlement sur les lignes et les désorganiser. Et en fait, ça fonctionnera de la même manière. Alors pour la bataille de l'Hydaspe, c'est un peu particulier parce qu'il y a les éléphants de Porus, et les éléphants de Porus ne permettent pas aux chevaux de la cavalerie macédonienne de s'approcher. En fait, hein, les chevaux ont des réactions néophobiques par rapport à ce qu'ils ne connaissent pas. Donc les chevaux d'Alexandre n'ont jamais vu d'éléphants. Alors il y avait quelques éléphants à la bataille de Gaugamel, nous disent les sources, mais visiblement ils n'ont pas véritablement été utilisés par Darius, qui comptait plus sur sa cavalerie, et ils ont été capturés dans le camp ennemi à la fin de la bataille. Donc ils n'ont pas vraiment servi, et Alexandre n'a pas entrepris un processus tout de suite de désensibilisation de ses chevaux. Ce qui fait qu'arrivé à l'Hydaspe, ses chevaux ont peur des éléphants. Donc il est obligé, ça c'est un peu la particularité de l'Hydaspe, il est obligé de manœuvrer de telle sorte de ne jamais se retrouver trop en contact avec la ligne d'éléphants de Porus.
Ce qui veut dire que les scènes telles qu'elles sont montrées où Bucéphale charge un éléphant et tous les deux se cabrent, relèvent évidemment plus de l'imagination d'Oliver Stone que de la réalité historique.
Alors, pas tout à fait que de l'imagination d'Oliver Stone, aussi de l'imagination des anciens, puisqu'on a retrouvé des monnaies d'argent qui représentent justement une scène dans laquelle on voit le roi sur un cheval cabré, donc probablement on peut projeter qu'il s'agit de Bucéphale, face à un éléphant sur lequel on a un homme très grand qui envoie un javelot, et on suppose que c'est Porus. Donc c'est un duel entre Alexandre et Porus sur ces monnaies commémoratives de l'Hydaspe, mais duel évidemment qui n'a jamais eu lieu dans la réalité.
Alors, ces éléphants, il faut dire que dans la suite de l'histoire, dans l'histoire des dialogues, dans l'histoire du monde hellénistique et ensuite également l'histoire de Carthage, deviennent quelque chose de récurrent dans les grands affrontements. On pense à la Seconde Guerre punique, mais aussi à toutes les guerres des dialogues, qui deviennent finalement partie intégrante, y compris de l'art grec de la guerre. Donc, ça veut dire qu'il y a, au départ, c'est quelque chose de totalement étranger. On le comprend d'ailleurs dans le film, hein, c'est montré comme totalement étranger, mais il y a une acculturation qui va se faire dans le siècle suivant, disons.
Oui, tout à fait. Alexandre s'est intéressé aux éléphants pendant sa campagne indienne. Hein. Il ne les a pas uniquement vus comme l'arme de l'ennemi à abattre. Il les a vus comme une arme qu'il pouvait s'approprier. D'ailleurs, il s'est entouré de cornacs indiens qui ont amené leur savoir-faire. Il a participé à une chasse aux éléphants pour voir comment on faisait pour les capturer dans les forêts indiennes. Et il a constitué un corps d'éléphant de 200 bêtes avec chacune son cornac. Il n'a pas eu le temps de les utiliser puisqu'il est mort en juin 323. Mais ses successeurs y ont vu une sorte d'arme qui permettait de prendre l'avantage sur l'adversaire. Parce qu'il faut imaginer qu'après la mort d'Alexandre, lorsque les diadoques se font la guerre, on a affaire à des armées qui sont équipées de la même manière, commandées par des officiers qui ont la même culture tactique. Les déploiements sont souvent totalement symétriques. Et donc finalement, pour prendre l'avantage sur l'adversaire, c'est très compliqué. Soit il faut avoir une meilleure cavalerie pour pouvoir envelopper, soit éventuellement les éléphants peuvent faire cette différence. Enfin, en tout cas, c'est ce que les diadoques ont pensé dans un premier temps. Et c'est pour ça qu'à la haute période hellénistique, on utilise énormément d'éléphants, des dizaines, voire des centaines parfois d'éléphants dans les batailles. Et ce n'est que par la suite que... si vous voulez, les fantassins étant parfaitement habitués à lutter contre les éléphants, ayant développé des techniques de combat contre les éléphants, on va plutôt considérer que l'éléphant peut être une arme dangereuse puisqu'elle peut se retourner contre celui qui l'utilise. Hein, au sens où, lorsque l'éléphant est vraiment gravement blessé et ou qu'il prend peur définitivement et qu'il n'obéit plus à son cornac, il s'enfuit et donc il se retourne, en fait il piétine ses propres troupes. Hein, donc ça peut créer du désordre.
Enfin, peut-être pour terminer, mais parce que c'est aussi la fin, on le voit pas vraiment dans le film, mais en fait si, c'est en filigrane, c'est justement les successeurs d'Alexandre, donc les diadoques, ses compagnons qu'on voit, et ça je vais le dire, c'est quelque chose que pour le coup j'ai beaucoup apprécié, qui n'est pas escamoté, c'est la manière dont leurs relations sont dépeintes dès la campagne d'Alexandre, c'est-à-dire c'est leurs relations qui sont fondamentalement conflictuelles. C'est la position des conseillers, et Alexandre qui aimait jouer ses conseillers les uns contre les autres, ça a été, enfin c'est connu, il y a encore une thèse récente par Hugo Chausserie qui a très bien montré ça, c'est-à-dire ce mode de délibération, ce mode de gouvernement qui passe par l'affrontement verbal et pas que des conseillers, et qui ensuite va complètement déraper, alors après du fait de la vacance du pouvoir d'Alexandre et du fait des vicissitudes de sa succession. Mais ça, il y a vraiment une manière de montrer ce qu'est un état-major à l'époque hellénistique, et un état-major, c'est un sommet d'affrontements et de disputes. Et ensuite, quand Alexandre va disparaître, c'est des disputes qui vont devenir des vraies guerres.
Avec des diadoques, enfin plutôt des compagnons pour l'instant, et des futurs diadoques, qui sont incarnés, nommés. La grande différence avec le Napoléon dont on parlait, où il n'y a aucun maréchal et un personnage tout seul, là, on a un entourage toujours présent, Héphaïstion, Cratère, Cassandre, qui se lance des piques comme ça. Donc effectivement, est incarné par des vrais acteurs, des gens qui sont reconnaissables. Ça, c'est quand même une dimension intéressante du film.
Oui, absolument. Ça, c'est un vrai plaisir, même si parfois on aurait aimé qu'il développe un petit peu plus.
Ou que il y a Antigone Le Borgne, mais il n'est jamais vraiment nommé. On comprend que c'est lui parce qu'il lui manque un œil, mais on aimerait en savoir plus.
Il y en a certains qui ne sont que des noms dans les dialogues. C'est un peu dommage. Ils ne sont pas caractérisés, mais après, ils étaient assez nombreux. C'est dommage d'ailleurs, de ce point de vue, que Stone ait perdu du temps en insistant sur des personnages qui n'étaient pas présents pendant la campagne. Parce qu'Antigone Le Borgne, par exemple, qui apparaît à plusieurs reprises, sans doute pour le côté visuel, est en fait nommé très rapidement gouverneur de Phrygie, et donc il reste à l'arrière. Cassandre, il n'a rejoint l'armée du roi que dans les dernières années à Babylone. Il n'était pas aux côtés du roi.
C'est salopard de Cassandre. Ouais.
Il va réussir à buter absolument toute la famille d'Alexandre en quelques années.
Oui, justement, alors ça c'est intéressant parce que le fait...
Donc c'est celui, je le dis simplement, qui est incarné par Jonathan Rhys-Meyers, qui tout joue cette espèce d'effet libidineux aux cheveux blonds, qui a un regard incroyablement libidineux devant tout le film, et fourbe.
Et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil aux sources historiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène, peu après le mariage avec Roxane, dont Stone fait toute une affaire, comme si ses officiers n'avaient pas compris. Il dit même, Alexandre s'était marié au mépris de la politique. Alors, pas du tout, hein. Le mariage avec Roxane, c'est une affaire hautement politique, hein. Il s'agit de s'allier avec les élites iraniennes de Bactriane pour garantir que ce territoire restera désormais calme et sous domination macédonienne. Mais bref, peu de temps après ce mariage, Alexandre se saisit donc de Cassandre et le secoue vraiment pour le remettre à sa place parce qu'il a été un petit peu trop incisif. Et en fait, c'est marrant parce que ça, dans les sources, on nous dit que si Cassandre détestait autant la dynastie d'Alexandre et s'il a mis un point d'honneur à tous les faire disparaître, c'est parce qu'effectivement une fois il s'était fait rabrouer violemment par Alexandre et que depuis ce jour il avait peur d'Alexandre et qu'il en faisait des cauchemars, etc. Donc il y a tout forcément, comme les Diadoques se sont aussi affrontés par biais de propagande par la suite, évidemment ils se sont chargés accuser les uns les autres, et Cassandre on l'a accusé d'avoir été un des instruments de l'empoisonnement d'Alexandre, et puis ensuite d'avoir tout fait pour faire disparaître sa descendance, etc.
Ça, disons, l'empoisonnement d'Alexandre, c'est hautement improbable puisqu'il met quand même un certain temps à être malade, et les poisons à l'époque, c'est pas comme ça que ça marche. En revanche, il est certain qu'il a aidé à faire disparaître Roxane et le fils d'Alexandre, et que je crois qu'il a, la main aussi dans le fait de faire disparaître Cléopâtre.
Et Olympias aussi.
Olympias, pardon.
Donc, absolument.
Oui, c'est Olympias qui fait disparaître Cléopâtre et son fils.
Philippe III, Aridée et Eurydice.
C'est-à-dire les autres enfants de Philippe. Bon, bref, ils se butent tous, mais Cassandre en bute plus que les autres.
Oui, absolument. Et donc, très rapidement, dans les guerres des Diadoques, les autres Diadoques ont cherché en fait à attaquer la famille de Cassandre en prétendant qu'elle était à l'origine de l'empoisonnement d'Alexandre.
Père de Cassandre étant par ailleurs Antipater, qui était celui qui régentait la Macédoine pendant qu'Alexandre était en Asie.
Mais qui, à la fin du règne, était sur la sellette, hein, puisque il me semble que quand Alexandre envoie Cratère avec les vétérans vers la Macédoine, Cratère a vocation à remplacer Antipatros à la régence de la Macédoine.
C'est très très compliqué.
Mais ce que je voulais dire sur les grandes tendances du fonctionnement de la cour d'Alexandre, c'est que d'abord, il y en a une qui vient de la tradition macédonienne, qui est qu'on a affaire à une monarchie relativement horizontale, où le bon roi, c'est celui qui est capable d'écouter ses courtisans, ses officiers, ses amis, et de prendre conseil auprès d'eux pour bien diriger le royaume. Et donc cette horizontalité fait que les courtisans d'Alexandre étaient habitués à une certaine liberté de parole. Or, quand Alexandre commence à adopter les usages perses, eh bien, dans le système achéménide, on ne tape pas sur l'épaule du roi, on ne critique pas le roi et on ne l'insulte pas, même si on a bu du vin. Et donc forcément, tous ces comportements que les proches d'Alexandre voyaient comme une liberté coutumière, normale dans une monarchie, eh bien, ça devient problématique. Ils ont l'impression qu'on ne peut plus rien dire, en quelque sorte, à la cour d'Alexandre. Ça ressort bien d'ailleurs dans le...
Cette cancel culture achéménide, terrible.
Ça ressort bien dans le discours de Kleitos. Mais la deuxième tendance, et ça le film le montre aussi un peu, c'est que assez rapidement, il y a une sorte de scission entre les jeunes de la cour d'Alexandre et les anciens. Les jeunes sont souvent accusés dans les sources de donc c'est les amis d'enfance d'Alexandre, hein, ils ont le même âge que lui, et on les accuse parfois de céder à la flatterie, de dire à Alexandre ce qu'il a envie d'entendre, de pas lui dire ses vérités. Et il y a un autre groupe, c'est celui des anciens, dont Kleitos fait partie, qui se sent de plus en plus marginalisés et qui comprend pas le projet politique. En fait, il faut savoir quand même que le motif officiel de la campagne, c'est une sorte de vengeance panhellénique contre les Perses pour les destructions commises lors des guerres médiques. Donc ça, c'est la raison, le prétexte qu'on a servi à la Ligue de Corinthe hein, pour faire de cette entreprise une entreprise panhellénique. Mais sinon, le but, c'est de vaincre Darius. Mais une fois que Darius est vaincu, y a pas mal de gens dans l'armée, y compris des officiers, qui considèrent que maintenant, on va rentrer en Macédoine avec les bras chargés de butin. Et pourquoi rester? Pourquoi continuer à aller jusqu'au fin fond de la Sogdiane, de l'Inde?
Qui plus est, en s'alliant avec des barbares.
En plus. Et le dernier élément que je voulais souligner aussi sur le fonctionnement de la cour, c'est effectivement qu'on ne peut pas prendre non plus la cour simplement comme des factions, il y a aussi des individus et comme vous l'avez très justement dit, en fait entre ces individus, il y a des jalousies, il y a des haines. Par exemple, on sait que lors du procès de Philotas, Héphaïstion a fait beaucoup pour discréditer Philotas aux yeux d'Alexandre. C'est celui qui a proposé de le torturer pour le faire avouer. Mais il n'était pas le seul. Hein. En fait, tous étaient d'accord pour faire tomber Philotas. Parce qu'il le détestait, parce qu'il était arrogant. Il appartenait à une grande famille macédonienne, celle de Parménion. Il était le fils de Parménion. Et aussi parce qu'à la mort de Philotas, ils se sont partagés ses attributions. Le rôle militaire de Philotas a été partagé entre Kleitos et Héphaïstion. Et lorsque Kleitos est à son tour assassiné, qui récupère tout? C'est Héphaïstion, et à ce moment-là, on voit dans la pratique de pouvoir d'Alexandre une tendance à s'isoler. Alors ça va très bien aussi avec le concept stonien du « le pouvoir isole, le pouvoir rend seul », voilà, on est seul face à soi-même, etc. Et donc Alexandre se retrouve isolé, et ça on le voit très très bien après la mort de Kleitos, où Alexandre est sous sa tente, il veut recevoir personne, et qui garde la porte et interdit à Roxane d'entrer, et c'est Héphaïstion. Et là Roxane a une phrase, elle lui dit: tu as tort Héphaïstion de faire ça. Et en fait, alors c'est une toute petite référence, mais à partir de ce moment-là, Alexandre va de moins en moins écouter son entourage et de plus en plus faire confiance au seul Héphaïstion. Ce qui fait que lorsque Héphaïstion meurt de maladie en 324, eh bien, il y a pas mal de compagnons qui se réjouissent, hein, qui avaient des conflits parfois assez importants avec lui.
Merci beaucoup Jérémy Clément pour ces éclairages sur un grand film malade en quelque sorte, un film imparfait, mais on espère que ça vous aura donné envie de le voir.
Le plus grand des fiascos.
Voilà, on pourrait dire ça, et à défaut de le voir en entier, allez au moins, si vous ne l'avez jamais vu, regardez sur YouTube la scène de la bataille de Gaugamel, parce que ça en vaut la peine. Je me permets de rappeler que j'avais reçu...
Regardez-le en faisant autre chose. Enfin, je trouve que...
Pas Gaugamel, non.
Non, Gaugamel, pas Gaugamel, mais je veux dire, regarder. Le film, bon, c'est lourd, c'est répétitif, c'est lent parfois... Mais on peut le regarder en arrière-fond, c'est moins pénible que...
Ou le regarder à plusieurs en le commentant et en
écoutant un épisode de podcast qui serait consacré.
Alors justement, un épisode de podcast, celui-ci, je me permets de signaler qu'au tout début du podcast Parole d'Histoire que j'anime en 2018, j'ai reçu Pierre Briand pour deux émissions, le grand historien de l'Empire Achéménide et d'Alexandre, épisodes 7 et 8 du podcast, donc vous trouverez ça sur le site Parole d'Histoire. Je me permets de vous y renvoyer.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par André Loez et Alexandre Jublin. On vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon ou de André ou de moi-même, tout comme notes, appréciations et commentaires sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.